Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, il est l'auteur de nombreux livres et articles de presse et il intervient régulièrement dans des débats sur les relations régionales, les fonctions de l'État ou la légitimité des pouvoirs. Après la crise des poubelles en 2015 au Liban, il lance le mouvement « Citoyens et citoyennes dans un État » qui prend part aux manifestations populaires dès octobre 2019. Actuellement consultant auprès d'organisations internationales, Charbel Naas est notre invité ce dimanche et vous pourrez réécouter son entretien en podcast sur notre site rfi.fr ou en téléchargeant notre application Pure Radio. Un entretien réalisé comme chaque semaine par Mathias Golshani. Bonjour Charbel Naas.
Bonjour Éric Bataillon.
Économiste, ancien ministre libanais des télécommunications et du travail. Vous êtes également fondateur et secrétaire général du mouvement Citoyens et citoyennes dans un État. Nous vous avions reçu dans Orient Hebdo lors de la crise dite des poubelles, c'était en 2015. Charbel Naas, la crise que traverse le Liban aujourd'hui est-elle seulement une crise économique ?
Écoutez, absolument pas. Ce n'est pas une crise économique et c'est encore moins une crise financière. Le Liban, pour son malheur tel qu'il y apparaît aujourd'hui, s'est retrouvé dans les années 70, vivre en même temps deux choses. D'une part, une guerre civile qui a été déclenchée par des petits calculs de politiciens qui ne mesuraient pas la taille des enjeux alors que la région se configurait. Et d'autre part, l'effet direct du boom pétrolier. Donc c'est en même temps l'émergence, l'institutionnalisation des communautés comme engin de guerre, et l'arrivée massive de flux d'argent qui rendait la guerre soutenable, voire utile. Toute la société a été reconfigurée à partir de la conjonction de ces deux effets, et il en a résulté un condominium très sophistiqué, qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit dans la Constitution, évidemment, de trois pôles. D'une part, des chefs de guerre communautaires, qui ont un contrat auquel ils tiennent, consistant à faire bénéficier de subsides, de bénéfices, d'avantages matériels, hein, leur, entre guillemets, communauté, le reste du monde étant étranger. Deuxièmement, des acteurs internationaux et régionaux qui sponsorisent chacun un de ses chefs, qui lui prêtent allégeance et qui s'engagent à soutenir en proxy, si vous voulez, ses visées. Et vu que ces deux pôles ont besoin de distribuer des bénéfices, il y a un troisième volet, un troisième angle qui est la pompe financière. Donc nous avons ce système qui a fonctionné et qui a remodelé la société. Ce qui est arrivé, c'est que c'est la machine financière qui a cassé. Elle ne pouvait pas ne pas casser parce qu'elle fonctionnait sur l'accumulation permanente de passifs, qu'on appelle les dépôts. Le Liban a reçu en net, en transfert de capitaux durant les 30 dernières années, 250 milliards de dollars. C'est 7 fois le PIB moyen, c'est supérieur en valeur réelle à tout le plan Marshall que les Américains ont mis en place pour l'Europe occidentale. Vous imaginez. Donc c'est ce truc-là qui a cassé, et ça ne pouvait pas ne pas casser. Donc c'est tout le système politique, et je dirais même l'ordre de la société qui est tombé.
Voulez-vous dire que les Libanais ont vécu au-dessus de leurs moyens ces dernières années ? Vous avez écrit, je crois, dans la revue d'économie financière, numéro 136, « Liban, illusion financière, illusion monétaire ».
Ah, tout à fait, tout à fait. Ce fonctionnement, si vous voulez, manipulait de manière excessivement habile la menace permanente, la menace de la guerre, du conflit, la menace même financière. Donc il fallait faire durer le rêve. Et d'autre part, l'organisation, certains l'appellent corruption, de la distribution de bénéfices. Alors, il en a résulté une émigration massive, constante. L'importation d'ouvriers de pays pauvres d'Afrique ou d'Asie du Sud, plus l'arrivée des réfugiés syriens. Tout cela a fait que les Libanais ont vécu, durant toute cette période, en rendant l'instant infiniment précieux et l'avenir restant entouré de menaces. Et par conséquent, cette accumulation financière de pertes, en fait, ne pouvait pas ne pas exploser. Nous aurions aimé qu'une correction volontaire ait pu avoir lieu bien avant. J'ai essayé cela à plusieurs reprises. Ça aurait été moins coûteux, il aurait fallu plus de courage, mais nous n'étions pas du tout surpris. Et l'organisation du parti que vous avez mentionné, bon, dont je suis secrétaire général, a été faite précisément en attente de cette crise, par anticipation. Mais les gens, même les plus avisés, hein, ont quand même voulu continuer à jouer dans ce casino où tout le monde gagnait. en amenant leur épargne de l'extérieur pour bénéficier d'avantages en taux d'intérêt. Les banques organisaient un show-off permanent en sponsorisant des activités culturelles pour montrer la richesse. Et ce qui est arrivé devait arriver. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où, comme vous le disiez, il ne s'agit pas du tout d'un problème financier, c'est l'effondrement de tout un système politique et de l'armature même de la société.
Malgré tout, un gouvernement vient d'être désigné courant septembre, après plus d'un an de vacances. Il est dirigé par Najib Mikati, dont vous avez été l'un des ministres en 2011. Est-ce pour vous, malgré tout, un bon signal ?
Absolument pas. C'est excessivement dangereux. Parce que la constitution de ce soi-disant cabinet, qu'est-ce qu'elle reflète ? Une fois que la machine financière, donc la pompe Afrique, a cassé, les chefs communautaires étaient dans le désarroi. Donc ils ont essayé pendant une semaine de se rabibocher dans un gouvernement d'union nationale qui était en place. Ça n'a pas pris. Ils se sont immédiatement clivés en deux camps. Tous les deux partant du même diagnostic. Disant que ce qui préexistait était l'ordre naturel du monde, contrairement à ce que nous disons. Et par conséquent, si ça s'est cassé, c'est qu'il y a un facteur externe qui a perturbé. Alors les pro-américains se sont dit, bon, ça semble être les Américains, il y avait encore Trump, hein, qui ont poussé, donc nous allons les accompagner en prétendant que nous sommes révolutionnaires, réformistes, etc., etc. Et ceux qui se sentaient visés, donc Hezbollah et ses alliés, se sont dit, c'est les Américains, donc le complot, donc nous allons résister. Donc ce clivage a duré quelques mois. La déclaration du défaut de l'État a amené, à travers des consultants dont Lazare, etc., à évaluer les pertes. Là, ils se sont rejoints, les deux camps, les pro et anti-Iran-USA, hein, tous les deux, pour défendre la cellule financière, qui s'est amusée à lancer un rouleau compresseur incroyable, avec quatre taux de change, avec la volatilisation des dépôts, non seulement des dépôts individuels, mais même de l'épargne sociale, des fonds de pension, des ordres professionnels, de la sécurité sociale, complètement laminés, poussant les gens à l'émigration massivement. Ce rouleau compresseur est précisément l'instrument qui fait que ce régime essaye de perdurer en détruisant la société. Une fois que le paysage environnant semble se calmer avec Biden, le retrait d'Afghanistan, la France qui revient à Bagdad, etc., le rabibochage avec la Syrie, etc., là, la cellule financière, défendue, ayant l'impression d'avoir réussi son pari, d'avoir démarré son rouleau compresseur, est revenue au-devant de la scène avec la bénédiction d'extérieur. Mikati, c'est ça. Mikati vient dans un pari de parachever la destruction de la société pour restaurer la légitimité du système bénéficiant de la force reconstituée au sein de la cellule financière et de l'appui des arrangements extérieurs en cours.
Orient Hebdo sur RFI.
Charbel Naas, votre mouvement citoyen et citoyenne dans un État se présente comme le premier parti d'opposition. Il est né de la contestation citoyenne. Sa principale revendication, l'instauration d'un véritable État laïque, donc non confessionnel. Est-ce possible au Liban ?
Qu'est-ce qu'une crise ? Une crise, ça arrive rarement les crises. On utilise le mot crise à toutes les sauces, mais le mot crise a un sens. La crise, c'est quand les choix sont imposés. C'est-à-dire quand ce qui constituait les références stables pour la population en termes d'institutions, etc., s'effondre. Et l'inconnu fait toujours peur. Donc, les changements de régime n'arrivent que dans les moments de crise. Les crises, c'est les guerres, les crises, bon, en France, 58, les crises, c'est les... ce ne sont pas des situations durables. Donc, ce que nous proposons est une alternative à la restauration de ce même régime alors même qu'il vit de la dilapidation de la matière humaine de la société, de l'émigration, de la perte des avoirs, du démantèlement de tous les rêves, de toutes les ambitions. Donc, ce que nous proposons, c'est un changement de régime. Et là, comme je suis sur RFI, je pense que le Liban, bon, la France s'intéresse au Liban, évidemment, des raisons historiques, tout ce que vous voulez, bien sûr, mais... au-delà de ça, le Liban est un pays qui a connu à un niveau extrême et je dirais exemplaire deux phénomènes qui concernent la plupart des pays du monde et la France en particulier. qui sont l'hyperfinancialisation. J'ai suggéré rapidement là quelques indicateurs. Les banques libanaises, en termes de dépôts, en termes de taux de bénéfices, etc., c'est relativement au PIB, c'est 5 fois les banques françaises ou même les banques suisses. Hein, c'est quelque chose de fou. C'est une hyperfinancialisation qui a atteint un point extrême et qui concerne tout le monde. La financialisation de l'économie sous le label de globalisation, etc., c'est l'organisation légitimée de la prédation à l'échelle internationale. Ça se pose au Liban comme cas extrême. Et deuxième chose, c'est le communautarisme institutionnalisé. Le communautarisme est devenu quelque chose qui est un levier, un argument essentiel de reprise en main par les pouvoirs de l'argent des sociétés, y compris de la société française. Et ce que nous voyons est tout à fait visible, jusqu'au point de menacer non seulement la légitimité de l'État, mais même la sécurité des appareils d'État. Donc je pense que plutôt pour les acteurs français, les politiques, les Français, les Françaises en général, de regarder le Liban comme étant bon une certaine nostalgie chrétien d'Orient, j'en sais rien moi, chrétien et musulman et tout ce truc-là. Évidemment, je ne suis pas donneur de leçons, mais il faut quand même débattre sérieusement. D'avoir le courage de traiter les défis qui menacent la France elle-même en termes d'hyperfinancialisation et en termes de communautarisation institutionnalisée à partir du cas libanais, qui a l'avantage d'être extrême, d'être petit, d'avoir un effet de contagion sur la région, sur la Syrie, sur la Palestine, sur l'Irak, qui rend la prise en charge de ces défis importante mais significative. Nous en profiterions, c'est sûr, mais je pense aussi qu'il y a là une conjonction d'intérêts propres et non seulement d'éveils nostalgiques, de réminiscences diverses et variées. Évidemment, cela change la nature du débat et plutôt que de traiter le communautarisme avec des États qui aujourd'hui ont pris leur place sur le monde, on n'est plus dans le monde bipolaire, hein. La France n'est plus la puissance qu'il fallait faire des sous-marins est claire, avec un État juif, un État chiite, un État sunnite, etc. C'est quelque chose, c'est une tendance générale. Et là, les Français sont juges, mais je pense qu'il faut plus de courage que ce que nous constatons.
Mais un État libanais laïque, les citoyens, depuis 2019, octobre 2019, descendent dans la rue pour réclamer une citoyenneté libanaise, donc dans un État laïque. C'est possible aujourd'hui ?
Oui, c'est tout à fait possible. C'est un rapport de force. Vous savez, nous sommes structurés comme un parti qui n'a pas honte de dire « Nous sommes prêts à assumer la gestion de la phase transitoire pour établir la légitimité d'un État laïque au Liban. » Et à partir du Liban, c'est le seul État laïque dans toute la région. Cette région a été transformée en champ de guerre depuis une vingtaine d'années, et elle est l'endroit où s'épanouissent les formes les plus extrêmes et les plus institutionnalisées et les plus insidieuses de communautarisme. Écoutez, je pense que la France a plus intérêt à affronter ces thèmes-là, ces deux thèmes, qu'à aller essayer de faire plaisir à tel ou tel roitelet en lui vendant un peu de missiles ou à dénicher un contrat pour Total ou pour je sais pas qui, à droite ou à gauche.
Mais le mouvement citoyen qui a émergé d'abord avec la crise des poubelles en 2015, mais plus récemment en 2019, en octobre 2019, est-ce que ce mouvement est encore vivace ou est-ce qu'il s'est essoufflé et quel avenir pour lui lors des prochaines élections ?
Écoutez, notre mouvement, le parti, a été constitué en 2016. 2016, il y avait des élections municipales au Liban. C'était un grand folklore ridicule, parce que, vous savez, les gens votent là où leur arrière-grand-père était enregistré en 1930. Nous avons tenté, à ce moment-là, de coaliser un ensemble de personnalités, de forces politiques, pour transformer ce carnaval ridicule en confrontation politique sur la légitimité de l'État. Et le nom de ce parapluie était citoyen et citoyenne dans un État. Au moment de la confrontation, on se fiche complètement d'avoir un membre dans un conseil municipal de je sais pas où, c'est pas ça le sujet. C'était une tentative de restauration déjà à l'époque du système, après la crise des déchets. C'est là où il y a eu l'accord pour amener Aoun, président de la République, et amener Saad Hariri, premier ministre. Il préparait les élections de 2010. Donc c'est un moment, c'est là où les ingénieries financières ont été concoctées pour aggraver démesurément les pertes et proroger la vie de ce système pourri pendant 3 ans. Donc cette confrontation, nous la voulions directe. Malheureusement, très peu de gens ont eu le courage, comme vous le disiez. Les gens, il est beaucoup plus simple de pérorer sur « je suis contre la corruption, je veux l'indépendance, la justice, je réclame je sais pas quoi » que de dire « je suis prêt à assumer la gestion en responsabilité de l'héritage de ce système pourri ». C'est beaucoup plus simple. Donc, nous avons décidé, suite à cela, et convaincus que la crise était proche et inéluctable, de nous constituer en parti structuré, en 2016. Donc, aujourd'hui, les élections. Écoutez, nous sommes face à une nouvelle tentative de restauration du système, mais cette fois avec un coût gigantesque. Comment vous restaurez la légitimité d'un système ? En faisant entériner par les gens l'état de fait qui leur est imposé. Et le meilleur moyen pour le faire est un rituel insidieux qui s'appelle élection. C'est le pouvoir qui fait les élections, partout dans le monde. Les élections, c'est d'abord y participer, c'est reconnaître que le système a obtenu le certificat de légitimité. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est, ayant acquis quand même, il faut le dire, constater pour notre parti une croissance importante. Nous sommes plusieurs milliers aujourd'hui. Au niveau du Liban, c'est plusieurs centaines de milliers comme c'est en France. Mais malheureusement, cela est arrivé alors que les dégâts sont colossaux et que le rouleau compresseur avance. Nous faisons tout notre possible pour que ce système ne puisse pas se légitimer. Nous imposons aujourd'hui à ce système une confrontation très dure au niveau de la classe moyenne, parce que la classe ouvrière au Liban, c'est constitué de pauvres immigrés qui sont là de passage. Au niveau des caisses, des fonds de pension et des mutuelles, des ordres professionnels et de la sécurité sociale, lesquels fonds représentent plusieurs milliards de dollars ou d'euros, ont été complètement dilapidés par ceux qui géraient ces fonds et qui dépendent des chefs communautaires et qui les ont placés dans les banques, donc dans l'autre compère du système. Donc cette confrontation, que ce soit en essayant d'amener à la tête de ces ordres des gens qui portent la volonté d'imposer cette confrontation, donc la défense de l'épargne sociale, de l'épargne collective, indépendamment du devenir des dépôts privés, si vous voulez, et non pas vis-à-vis des banques telles qu'elles sont, mais vis-à-vis des biens propres des banquiers eux-mêmes, et vis-à-vis des négociations à venir avec le FMI ou je sais pas qui. Donc imposer une rupture dans le rapport de force qui fait que, soit par alignement de certains de ces ordres, soit par une action directe pour les démanteler de l'intérieur s'ils refusent de reconnaître leur participation à la dilapidation des fonds dont ils étaient en charge, bon, nous espérons, faisons notre possible, imposer par là une confrontation dure à ce gouvernement pour l'empêcher de gagner sa relégitimation.
Mais que dites-vous à tous les Libanais qui sont très très nombreux aujourd'hui, qui pensent que la situation économique et sociale est telle qu'ils n'ont d'autre choix que de quitter le pays?
Écoutez, on est bien en mal de dire ce qu'on pense à des jeunes gens et des jeunes filles qui ne trouvent pas de boulot, dont les parents ont perdu leur épargne, qui n'ont aucun espoir en vue et qui n'ont que la crainte de l'explosion de la violence. Que leur dire? Alors ils émigrent massivement. Et d'autre part, ils cherchent à se caser dans ce qu'on appelle les ONG qui leur distribuent les dollars et qui par conséquent privent la confrontation politique d'une grande partie de ses ressources, sous couvert d'humanitaire bien entendu. Il est très difficile de leur dire « poursuivez la confrontation ». Dans notre parti, nous avons beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles, une proportion non négligeable émigre. Nous allouons les tâches qui peuvent être opérées à distance à ceux qui sont dehors, pour que ceux qui sont encore au Liban soient sur la confrontation. Mais la vraie réponse, si vous voulez, à votre question, c'est de leur dire, écoutez, personne ne choisit ni où ni quand il naît. Cette expérience que vous vivez est une expérience exceptionnelle. Un effondrement de ce genre dans une région aussi marquée par la violence, c'est une expérience qui peut donner un sens à votre vie, plutôt que de vous soumettre à des rôles sociaux qui vous sont alloués, d'être monsieur ou madame employé je sais pas où, notable je sais pas où, etc. Donner un sens à sa vie, c'est quelque chose qui vaut la peine de réfléchir.
Battez-vous en quelque sorte.
Battez-vous absolument.
Merci, cher Belnaas.
Merci, Eric Bataillon.
Secrétaire général du Parti citoyen et citoyenne dans un État, j'ajoute que vous êtes de passage à Paris pour rencontrer les responsables de la section européenne de votre mouvement.